Et ce matin dans le 8.30, non pas le COJOP mais le CAOJOP, le comité d'alerte sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, qui a vu le jour ce mardi dans les Hautes-Alpes, et notamment à sa tête, hein, c'est son président qui est Stéphane Forbrack. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce CAOJOP, hein, comité d'alerte sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Vous avez envoyé une lettre ouverte à Edgar Gros-Piron, qui prendra la présidence du COJOP. Pourquoi lui avoir écrit, et pour l'alerter sur quoi ?
Alors déjà, donc le mot alerter a toute son importance. En fait, si vous voulez, quand nous on part du principe que l'olympisme se fonde sur des critères extrêmement précis, dont je vais les citer vite fait, donc la valeur éducative du bon exemple, le respect des principes éthiques fondamentaux, la compréhension mutuelle, la non-discrimination. Et il se trouve que le projet JO 2030, lui, s'est fondé sur une première phrase de Renaud Muselier qui dit « Si on a les Jeux, tout sera concentré sur les Jeux. Ceux qui n'en veulent pas n'auront rien. » Donc là, on est quand même dans une forme de chantage. Et le chantage, d'après ce que j'ai compris, et d'après ce qu'on a tous compris, ça ne fait pas partie des principes éthiques fondamentaux et universels du CIO. Donc ça nous interroge. Et ensuite, on s'aperçoit que le déroulé du projet, la manière dont il est monté, continue dans la même veine.
Pour vous, on va privilégier certains sites, si je vous comprends, de par cette déclaration de Renaud Muselier, notamment Briançon et Montgenèvre, mais force est de constater que dans la politique régionale, ça n'est pas le cas. 100 millions d'euros pour les espaces valéens, 100 millions d'euros pour les stations, ça concerne tout le territoire, notamment des Alpes du Sud.
Alors effectivement, et ça c'était des choses qui étaient prévues avant les JO, donc en fait c'est pas les JO qui nous amènent ces financements-là, ça existait déjà avant. Donc en fait, en gros, globalement, les JO c'est quoi pour nous ? Les JO c'est de l'argent public supplémentaire qui vient déjà abonder des financements assez conséquents sur des zones qui sont, on va dire, pas en manque de financement public, même privilégié par rapport à d'autres endroits. Et par contre, ce surplus de financement public, lui, va manquer partout ailleurs. Notamment, on a déjà des impacts dans Briançonnais, avec des subventions qui ont sauté sur des régionales, qui ont sauté sur des associations ou par exemple des budgets des parcs régionaux qui baissent. Voilà. Donc pour nous, ce qui nous impressionne, c'est la différence entre le discours et la réalité de terrain.
Quel est est-ce que vous avez des liens déjà avec les NoJO, avec le collectif NoJO ?
Oui, donc bien sûr, on se connaît en fait. Hein, on n'a pas d'antagonisme. Par contre, on va dire que chacun fait son chemin à sa façon. Voilà. J'ai pas à en dire plus.
Par rapport à ce que vous demandez à Edgar Gros-Piron, vous dites tous les modèles climatiques indiquent que ça ne fera qu'empirer. Pourtant, des financements publics colossaux sont fléchés vers les JO. Vous dites un modèle économique sans avenir à long terme en sacrifiant délibérément une multitude de territoires. Vous êtes sûr que ce modèle économique aussi ne sera pas écologique ?
Alors, enfin, là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est toutes les études qui vont avec. Après, ça dépend qui interprète les études. C'est vrai qu'il y a la région à l'étude Klimsnow qui dit qu'il y aura de la neige jusqu'en 2050 dans les stations principales. Par contre, on sait très bien qu'ailleurs, c'est déjà la cata. Les stations de moyenne altitude souffrent énormément. Les stations du Kira sont en déficit. Pourtant, elles ne sont pas forcément en moyenne altitude. L'impact écologique des JO, on va dire qu'il est, il est à la fois direct, parce qu'il y aura énormément de spectateurs qui vont venir se disperser dans toutes les Alpes, parce que les sites sont éparpillés. Mais en plus de ça, l'impact écologique va avoir lieu dans le long terme, parce qu'on n'aura pas mis l'argent là où il fallait pour assurer la transition de tous les territoires. Et j'insiste sur tous les territoires.
Quand la ministre des Sports dit que la carte olympique devra certainement être revue, est-ce que c'est une déclaration qui a tendance à vous rassurer ?
Alors, on va dire que ça me surprend. Me rassurer, je ne sais pas, parce que en fait, si les épreuves se font pas d'un côté, elles se feront de l'autre. Donc, en fait, je critique le potentiel égoïsme du montage du projet, donc je ne vais pas me comporter de la même manière. On va pas dire qu'on va être content si d'autres territoires récupèrent des épreuves. Par contre, c'est certain que si c'était plus centralisé, si on observe la situation, le Briançonnais est un peu une verrue là-dedans. On n'a pas les structures, on n'a pas les accès. Donc c'est nous qui allons coûter le plus cher. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui quand on voit que les régions restreignent leur budget un peu partout, que l'État fait exactement la même chose sur les secteurs principaux de la nation. Nous, on répond que c'est pas une bonne chose. Donc, c'est vrai que si les coûts pouvaient les coûts publics pouvaient être réduits, ce serait quand même au moins déjà une victoire.
Si les Hautes-Alpes n'accueillent pas les Jeux Olympiques, pour vous, ce serait une victoire ?
Alors, j'ai peut-être dit le mot victoire, j'y vais peut-être un peu vite. En fait, c'est le contexte en fait qui pose problème. Dans le contexte actuel d'un pays qui a un monceau de dettes, qui sabre tous les budgets généraux de la nation, dans un contexte où les régions sont obligés de faire la même chose, sont obligés donc de couper les vivres d'un côté pour pouvoir financer d'autres choses. Il se trouve que oui, c'est vrai que bon, si l'argent public n'était pas investi, si ce monceau d'argent public n'était pas investi directement sur les JO, il irait abonder tous les autres secteurs. Et pour nous, ça, ce serait une victoire. C'est pas forcément une victoire contre les JO.
Mais quand on vous dit ces Jeux Olympiques vont permettre de lever des financements pour améliorer le désenclavement ferroviaire, le désenclavement routier, vous n'y croyez pas ?
Alors, le désenclavement ferroviaire, je n'y crois pas. En fait, ça va être des petites choses. Certes, le train de nuit, on va investir certainement quelques sommes là-dedans. Il y a déjà des sommes qui ont été annoncées sur le train Marseille-Briançon.
151 millions d'euros sur l'étoile ferroviaire.
Voilà. 151 millions, alors ça c'était déjà, c'est pareil, est-ce que c'est les JO qui nous permettent de mettre cet argent-là ou est-ce que c'était pas déjà dans les cartons, en sachant que la ligne Briançon-Marseille était abandonnée par la région depuis bien longtemps et c'est quand même parce qu'on a fermé des gares, arrêté d'entretenir le secteur pendant quelques temps qu'on en est là aujourd'hui. Donc pour moi c'est un rattrapage en fait, mais c'est un rattrapage qu'aurait dû faire, si vous voulez, c'est plus un aveu d'impuissance de la part des élus régionaux que quelque chose qu'on peut attribuer au JO.
Dans cette lettre ouverte à Edgar Gros-Piron, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous qualifiez ces JO 2030 de JO de la honte et vous dites le projet Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans les Alpes françaises est aux antipodes de celui de Paris 2024. En quoi ?
Alors tout simplement parce que Paris 2024, c'est un projet qui s'est monté à une époque où la France n'était pas dans cet état-là sur le plan budgétaire. Donc on pouvait encore se permettre certaines choses, on va dire certaines fêtes qui sont pas primordiales pour la nation. Donc là, ça pouvait se comprendre. Là, aujourd'hui, on est dans une situation plutôt dramatique au niveau des finances publiques. Et donc, on n'est plus dans la même phase. Et pour moi, il y a des priorités. Et ces priorités ne sont pas les Jeux Olympiques dans les Alpes, parce que c'est quand même une gâterie que certains peuvent s'octroyer. C'est pas le sujet principal des préoccupations nationales.
Vous espérez une réponse d'Edgar Gros-Piron ?
Oh, on va dire pourquoi pas. En fait, on a déjà des athlètes qui nous ont répondu parce qu'on a déjà envoyé quelques courriers à droite ou à gauche. Là. Pourquoi pas ? En fait, nous, ce qu'on aimerait surtout, c'est pouvoir donc que le COJOP et le COAJOP discutent, arrivent à débattre. Surtout dans cette phase-là qui est une phase de construction.
Vous dites, et des athlètes nous ont répondu qui ?
Alors, je ne vais pas vous citer des noms. Parce que
Martin Fourcade ?
Martin Fourcade, non. Non, il ne nous a pas répondu. Par contre, on a vu ses positionnements. On sait que pour avoir discuté à droite à gauche, pour avoir pris la température, on sait que oui, il y a des gens qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément celles qui sont portées par ces JO, notamment par le fait qu'ils soient submergés par la politique aujourd'hui, plus que par le sport. Donc ça, on prend bien la température. Ensuite, on prend aussi la température auprès des populations.
Voilà, le comité d'alerte sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, le COJOP, hein, qui donc a été mis en place ce mardi en même temps que le COJOP du côté de Lyon. Merci beaucoup, Stéphane Forbrack, pardon, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin.
Merci
pour parler hein, de cette association.